Alléluia, vous pouvez prendre place, frères et sœurs. Nous allons ouvrir la bonne parole de notre Dieu dans le psaume 87. Nous lirons au verset 6. Psaume 87, verset 6. L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. Pause. Et ceux qui chantent, et ceux qui dansent s'écrient « Toutes mes sources sont en toi. » Alléluia. Nous relisons le verset 6. « L'Éternel compte en inscrivant les peuples. C'est là qu'ils sont nés. » Ce texte nous parle d'un recensement. Parce que le fait de compter en inscrivant les peuples là où ils sont nés, c'est la définition même d'un recensement. Et même, littéralement, on devrait lire, c'est là qu'ils sont nés chacun. C'est là qu'ils sont nés individuellement, ce qui renforce encore l'idée d'un recensement. Et ce recensement a ceci de particulier qu'il est fait par Dieu. Comme on le voit là, d'après l'Écriture, il y a eu dans l'histoire d'Israël plusieurs recensements du peuple de Dieu. Lorsque Jacob est descendu en Égypte, toute sa postérité a été dénombrée, ils étaient nombre de 70, et combien le peuple de Dieu était peu nombreux à ce moment-là. Il y a eu un autre recensement, lorsque le peuple est sorti d'Égypte, et quand vous lisez les premiers chapitres du livre des Nombres, on ne pouvait qu'être étonné de la multiplication extraordinaire qui s'était produite en Égypte, dans la maison même de servitude, parce que il est marqué là que plus ils étaient opprimés, et plus ils se multipliaient, et au moment où ils sortaient d'Égypte, ils étaient 600 000 hommes de pied, préparés pour la guerre, sans compter les femmes, les enfants et les personnes âgées. Il y a eu encore un autre recensement, après que le peuple ait passé 38 ans dans le désert. Là, parce qu'au travers de leurs péchés, ils ne s'étaient pas multipliés. Donc, et un si grand nombre était tombé dans le désert que, malgré l'accroissement naturel normal, la population en était restée au même niveau. Et même, les hommes de guerre étaient 2000 de moins que lors du précédent recensement. Et en avançant dans l'histoire, vous avez une autre tentative de recensement lorsque David a commandé à Joab de passer par toutes les tribus d'Israël et de dénombrer le peuple depuis Dan jusqu'à Beersheba. Mais David avait oublié que ce peuple ne lui appartenait pas, qu'il n'appartenait qu'à Dieu et qu'il n'était lui-même que le vice-roi et qu'en prétendant investir Joab de la prérogative des prêtres, il péchait gravement parce qu'il n'offrait pas le cycle du sanctuaire qui était prévu pour cette circonstance qui parlait de rachat du peuple et de rédemption du peuple. Même Joab, qui n'était pourtant pas un grand homme de grande piété, même Joab avait manifesté son désaccord en cette occasion-là. Et aussi, le péché était-il si grand que Dieu n'a pas pu faire autrement que de lui proposer le choix entre trois châtiments, soit 3 jours de peste, soit 3 ans de famine, soit une période de fuite devant ses ennemis qui lui infligerait des défaites dans la guerre. Et ainsi Dieu faisait comprendre à David que c'est l'Éternel qui doit faire le dénombrement, c'est à lui que le recensement est réservé et que David n'en avait absolument pas le droit. Donc, c'est Dieu qui comptera ses élus, frères et sœurs. Il faut bien qu'on en soit convaincu. C'est lui qui dénombrera ses rachetés et l'homme ne doit pas s'aventurer à essayer de toucher à ce livre mystérieux. Il n'y a que l'agneau de Dieu qui soit digne de prendre le livre et d'en ouvrir, de ce livre-là aussi, et d'en ouvrir les sceaux. Le livre de vie de l'agneau ne doit être lu que par celui qui a racheté son peuple par son propre sang. Et pour les comptes, il n'y a que le grand berger lui-même qui puisse faire passer ses brebis sous sa main et les appeler par leur nom. Amen. Et notre texte nous dit qu'il y aura un autre grand recensement, un grand recensement final et décisif de la véritable Église du Seigneur. Voilà ce que notre passage nous explique. Et c'est de ce grand dénombrement, c'est de ce grand recensement que nous avons à parler maintenant. Oh, ce serait tellement merveilleux s'il pouvait être dit de chacun d'entre nous, comme dans ce verset, c'est là qu'il est né. Amen. Amen. Pourrons développer successivement plusieurs points. Déjà, parlerons de ce que ça veut dire qu'être ainsi inscrit et ce que cela implique. Ensuite, nous pourrons parler des noms, quels seront les noms de ceux qui ne seront pas inscrits lors de ce recensement. Et puis, quels seront les noms de ceux qui seront inscrits en troisième. Puis en quatrième, quel sera celui qui remplira ce registre de recensement. Et enfin, pourquoi Dieu fait-il un semblable recensement. Donc, parlons en premier de ce qui est impliqué par le fait d'être ainsi inscrit. Et déjà, une première chose qu'on peut voir, c'est qu'il n'y aura dans ce recensement que des questions personnelles. Il n'y aura que des matières personnelles. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, notre texte dit « c'est là qu'ils sont nés chacun, individuellement, chacun, personnellement ». Le nom de chacun, l'un après l'autre, sera trouvé là, ou alors il n'y sera pas trouvé écrit. Il y a quelque temps, il y avait un vieillard de 90 ans, d'origine danoise, mais qui avait habité aux États-Unis depuis l'âge de 20 ans, qui est parti visiter sa première patrie, donc le Danemark. Mais à son retour, à sa grande surprise, il s'est vu refuser l'entrée en Amérique, parce qu'il n'était pas citoyen américain, comme il avait cru, quoiqu'il y ait vécu et voté pendant 70 ans. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait jamais fait les démarches pour la nationalité. Eh oui, et c'était comme ça. Et que de gens ont des sentiments religieux et ils croient être sauvés, bien qu'ils n'aient jamais fait le nécessaire pour devenir citoyens des cieux. Et l'acte de naturalisation, si on peut dire, c'est le sang de Christ qu'il a signé. Est-ce que nous avons recherché et accepté cette signature ? Est-ce que nous sommes réellement venus à Christ de tout notre cœur ? Est-ce que nous sommes vraiment passés de la mort à la vie ? Est-ce que nous sommes vraiment passés de l'attachement aux choses de la terre à l'attachement aux choses du ciel et aux choses de la gloire? Est-ce que nous avons réellement pris l'engagement de suivre Christ, de devenir son ou sa disciple, l'engagement du baptême, l'engagement du changement de vie à sa gloire? Nous sommes-nous vraiment consacrés à lui après avoir peser et réfléchir ce que ça va impliquer comme conséquence dans notre existence. Donc ça va impliquer des combats, c'est vrai, des luttes, un certain nombre de pertes au niveau du monde et de notre nature charnelle, et puis bien sûr aussi des gains en particulier spirituels considérables. Est-ce que nous avons vraiment considéré cela ? C'est absolument fondamental. Au bout du compte, c'est notre piété personnelle, c'est notre relation personnelle avec Dieu qui fera que nous serons inscrits là ou non. Alors bien sûr, nous avons aussi chacune et chacun des responsabilités vis-à-vis de l'Assemblée, des frères et sœurs, mais au bout du compte, ce n'est pas l'Assemblée qui va se tenir devant Dieu pour nous, c'est chacun de nous qui aura à le faire. Et nous aurons chacun à nous tenir devant Dieu pour entendre soit « Allez-vous en maudit » ou alors « Venez bénis de mon Père ». Alors sur cette terre, c'est vrai qu'il peut y avoir des innocents qui sont pris dans des calamités communes avec d'autres, ou à l'inverse, il peut y avoir des hommes méchants qui bénéficient de certaines grâces communes, mais à ce moment-là, le mal retournera au mal, et le bien retournera au bon. Le blé sera entièrement séparé de la paille, et ceci grain par grain, sans en perdre un seul. Le peuple de Dieu, chacun accepté personnellement, et les méchants, chacun condamné personnellement, trouveront leur rétribution finale et définitive. Voilà ce qui va se passer. Est-ce que vous avez chacun pour votre part, ici aujourd'hui, chacun fait une expérience réelle et personnelle de purification par le sang de l'agneau et d'engagement pour lui. Ça, c'est donc le premier point que nous voyons dans ce chapitre-là. Ensuite, ce que nous voyons aussi, c'est que ce fameux recensement, il a trait à des questions vitales à propos de la naissance de l'homme. Il est dit, c'est là qu'ils sont nés. C'est là qu'ils sont nés chacun, oui, c'est vrai. Et le grand point, pour savoir si vraiment nous sommes inscrits dans ce grand livre, c'est bien celui-là. La grande question qui déterminera tout, cette personne est-elle réellement née de nouveau ? Cet homme a-t-il vraiment été appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière ? A-t-il clairement répondu oui à cet appel ? Y a-t-il eu un véritable changement de vie ? Preuve qu'un travail de régénération s'est accompli dans son existence. Ce cœur de pierre a-t-il vraiment été transformé en un cœur de chair ? Ses yeux ont-ils été ouverts aux yeux du ciel, aux choses du ciel. Ses oreilles ont été rendues prêtes à obéir au commandement divin et avec joie d'obéir au Père Céleste. Y a-t-il eu un changement vital et radical de manière à ce que les choses anciennes soient passées et que toutes choses soient devenues nouvelles? Voilà la question. Vous savez, lorsque Spurgeon s'est converti, eh bien, c'était quelque chose, il était encore tout jeune, mais déjà il passait par de grandes détresses morales, il avait réalisé qu'il avait péché contre Dieu, il priait avec instance, il lisait les Écritures, il fréquentait les cultes, mais l'obscurité, le désespoir ont continué en lui pendant plusieurs mois, et un dimanche matin, alors qu'il s'était rendu dans une petite chapelle de méthodistes primitifs, donc, c'est un cordonnier illettré qui a tenté de remplacer le prédicateur qui était retenu par une violente tempête de neige. Et cet homme, il a pris pour texte Ésaïe 52, verset 10, que je vous lis. « Vous, toutes les extrémités de la terre, regardez et soyez sauvés. » Je relis. « Vous, toutes les extrémités de la terre, regardez et soyez sauvés. » Et il a exhorté les quelques auditeurs qu'il y avait là à regarder à Christ, leur seul espoir de salut. Alors il a aperçu Spurgeon qui était là sous la tribune, et puis il lui a dit « Jeune homme, vous avez l'air bien malheureux, et vous le serez toujours, dans la vie comme dans la mort, si vous n'obéissez pas à mon texte, mais si vous obéissez maintenant, à l'instant vous serez sauvé, lui dit-il. » Et puis il lui cria « Jeune homme, regardez à Jésus-Christ !» Et Spurgeon a regardé à Jésus-Christ, et il a été sauvé. Et c'est pas, vous savez, c'est pas une question de capacité intellectuelle ou autre, parce que Spurgeon a prouvé dans sa vie, au-delà de toute discussion, qu'il était abondamment pourvu de grandes capacités. Mais c'est une question de disposition de cœur, voyez-vous, mes amis. Hein, c'est une question de réaliser quelles sont les priorités spirituelles. C'est une question de réaliser notre propre petitesse, notre propre indignité devant la grandeur et la sainteté de Dieu. Et en même temps aussi, de saisir avec foi et reconnaissance l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour notre salut éternel. Amen. Amen. Mais si ce n'est pas le cas, alors c'est vrai qu'il ne peut pas y avoir de place sur ce grand rouleau de notre Rédempteur pour notre nom, et ce nom ne sera pas mentionné, et nous resterons là, frissonnant de désespoir, quand seront appelés ceux qui ont véritablement fait alliance avec le Seigneur par le sacrifice. Amen. Amen. Alors, une chose encore, dans ce premier point, dans ce premier chapitre, ce dont il sera question dans ce recensement sera définitif, finalement définitif. Ça aussi, il faut le savoir. Parce qu'aujourd'hui, s'il est encore possible d'être inscrit dans ce livre précieux, eh bien ce ne sera plus possible quand ce dernier dénombrement sera achevé. Hein. Aujourd'hui, comme il est dit à la fin de l'Apocalypse, au dernier chapitre, chapitre 22, que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est injuste soit encore injuste, s'il veut, il continue encore de ce chemin-là. Hein. On a encore cette liberté, voilà. Mais à ce moment-là, ce sera le dernier comptage des véritables joyaux et le dernier rejet des contrefaçons. Ce sera le dernier accueil des brebis, le dernier éloignement des chèvres et des boucs. Et combien il est donc important que nous puissions avoir cette assurance que notre nom est inscrit dans ce livre-là et que nous puissions nous souvenir d'une façon inoubliable que ce recensement est vital, qu'il est personnel, qu'il est décisif. C'est de très loin la démarche la plus importante de notre existence qui est en jeu là. Amen. Et puis, passons à notre deuxième grand point. Quels seront ceux qui ne seront pas inscrits quand le Seigneur fera le décompte de son peuple ? Évidemment, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre complètement, mais malgré tout, l'Écriture nous mentionne clairement les caractères de ceux que nous n'y trouverons pas. Et tout d'abord, commençons par les membres d'églises hypocrites. Ceux-là ne s'y trouveront pas, c'est sûr. Hein. Pourquoi parler d'eux en premier ? Parce que ce sont ceux qui peuvent le plus facilement se tromper eux-mêmes. Hein. Ceux qui ont voulu peut-être s'acquérir ainsi une certaine respectabilité, ceux qui ont fait profession d'une foi qui n'est pas vraie, ceux qui ont revêtu une peau de brebis pour l'apparence, mais qui sont restés des loups à l'intérieur, ceux qui passent pour être vivants, mais qui sont morts, ceux qui ont blanchi le sépulcre, mais ça reste un sépulcre avec toute la corruption à l'intérieur, Et c'est une chose d'avoir peut-être réussi à, je dirais, tromper le serviteur de Dieu, ou peut-être avoir réussi à gagner le respect et l'estime de membres, des membres de l'Église, mais c'est une autre chose que de réussir à échapper au regard de flamme de celui devant lequel tout est à nu et découvert, celui qui pénètre les secrets du cœur, celui devant lequel même la mort et l'enfer sont nus et dévoilés. Et oui, c'est vrai. Et on peut avoir son nom inscrit dans un registre d'église, ou l'avoir inscrit sur une carte de baptême, sans aucune rature, ou même prêcher aux autres, et être finalement rejeté. Ce sont des choses, effectivement, qui peuvent se passer. Je racontais une anecdote qui s'est produite il y a quelques années dans une province chinoise, et là, pendant que les chrétiens étaient réunis pour célébrer un culte le dimanche matin, subitement, la porte de la salle s'est ouverte, et un officier communiste et quelques soldats sont entrés, et l'officier s'est placé devant l'auditoire et a dit « Je vous donne 5 minutes pour quitter ce lieu. » Voilà. Après, il les a menacés, il a dit « Si vous êtes de vrais chrétiens, vous resterez, alors tant pis pour vous, les autres, vous pouvez partir, et on fermera les yeux, vous n'aurez plus pas de problème pour cette fois, dépêchez-vous de faire votre choix. » Imaginez que ça nous arrive. Qu'est-ce qu'on ferait? Ah, question, hein? Et bien vite, la salle s'est vidée, et seuls quelques-uns se sont réunis sur le premier banc. On a fermé la porte, l'officier a pris la parole et leur a dit « Je vous ai fait une démonstration afin que vous sachiez qui est vraiment chrétien et qui ne l'est pas. Maintenant, continuez votre culte. » Ah, c'est quelque chose. Qu'est-ce que nous aurions fait? À quoi aurions-nous été prêts? Ah, c'est une question, vous savez. Vous savez, lorsque vous regardez le peuple d'Israël, il faut quand même se souvenir que pendant tout un temps, ils ont tourné dans le désert et ils étaient à moins de 30 kilomètres, à vol d'oiseau du pays promis. Et ils ont tourné dans le désert pendant des années. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils avaient une mentalité de sauterelle. Vous savez ce que c'est qu'une mentalité de sauterelle? Eh bien, c'est lorsque les espions sont revenus, ils ont dit « Il y a des géants dans le pays! Nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles en comparaison !» Et voilà. Il y en avait deux qui n'avaient pas de mentalité de sauterelle. C'était Josué et Caleb. Mais non, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille. Faut qu'on lutte. Faut qu'on combatte. Hein? Et vous pouvez remarquer qu'ils ont eu la foi. Ils se sont mis tout le monde à dos. Hein? Ou presque. Donc ils se sont mis. Ça, c'est des choses qui peuvent se produire, vous savez, quand on a la foi. Hein? On peut se mettre, même dans le peuple de Dieu, on peut se mettre du monde à dos. Hein? C'est des choses qui peuvent se produire. C'est des choses qui peuvent arriver. Hein? Donc, qu'est-ce que c'est les gens qui ont une mentalité de sauterelle? Ben, c'est des gens qui sont toujours en train de se plaindre des injustices de la vie, voilà, ils sont en train de ressasser des événements où quelqu'un apparemment leur a fait du tort, ou ne les a pas compris, par exemple. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dit « souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ hein ». C'est qu'il dit. Ou alors, c'est des gens qui se cherchent toujours des excuses pour expliquer leur manque de succès, n'hésitent pas même peut-être à critiquer ceux qui marchent dans le Seigneur, qui marchent de victoire en victoire, et pour eux aussi, l'apôtre Paul a écrit, il a dit qu'en Dieu, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés. Hein, dans Romains chapitre 8, c'est des gens qui se plaignent de ne pas avoir reçu ce qu'ils ont demandé, au lieu de concentrer leurs efforts sur la tâche qui leur a été confiée. Alors que l'apôtre Pierre nous dit bien que par sa divine puissance, nous avons reçu tout ce qui est nécessaire hein, pour pouvoir marcher dans le Seigneur et faire connaître celui qui nous a appelés. Apprenons à mieux connaître Dieu pour que le Seigneur nous aide à avoir un état d'esprit qui nous rend capable de vaincre nos géants, parce que nous avons des géants à vaincre dans nos vies, et le Seigneur veut nous aider à cela. Amen. Alors prenons garde à ne pas nous appuyer notre religion sur l'opinion des hommes, même des meilleurs, même des plus grands serviteurs de Dieu, mais que ce soit le témoignage du Saint-Esprit rendu à notre cœur que nous sommes enfants de Dieu, véritablement enfants de Dieu, qui soit véritablement notre appui. Amen. Amen. Et puis, parmi les noms qui n'y seront pas, vous avez aussi le nom de celui de l'homme qui n'est qu'un simple auditeur. Ah ben ça aussi, c'est quelque chose qui existe. Hein. Dans les églises, des gens qui peuvent être définis comme des auditeurs seulement. Voilà, l'oreille est ouverte, l'esprit est intéressé, l'attention est fixée sur le prédicateur, c'est une bonne chose, Dieu soit béni pour ceux qui veulent écouter la parole de Dieu. Alléluia. Mais n'être qu'un auditeur ne nous amènera jamais au salut. Que la semence soit semée, mais qu'elle ne produise pas de racines, ça ne donnera jamais de moisson. Hein, donc, on peut être assis sur ces chaises pendant 10, 20, 30 ans. Si ça ne nous amène pas à croire de tout notre cœur, si ça ne nous fait pas produire de fruits, le résultat non seulement ne sera pas rien, il sera pire que rien, le résultat. Et parce qu'il faut se rappeler que si la prédication n'est pas une odeur de vie dans la vie, eh bien, elle sera une odeur de mort dans la mort. Voilà ce que nous rapporte l'Évangile. Parce que c'est tellement facile de se dire qu'il suffit de venir à quelques réunions et on aura accompli tout ce qu'on peut demander de nous chaque semaine, parce qu'on est dans un immense risque. C'est de se trouver dans la situation de ceux qui diront « Nous avons mangé, bu avec toi et tu as enseigné dans nos rues ». Et rappelez-vous ce que le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Ah, il faut qu'il y ait un réel changement. Un autre témoignage qui se passe aussi dans une église clandestine d'Asie centrale, c'est passé il y a quelques années. Dana, c'est la fille d'un pasteur d'une église clandestine, là, donc en Asie centrale, et un soir, alors qu'elle avait environ 9 ans, on a frappé à la porte de leur maison et un policier en uniforme est apparu. Et puis il dit, je cherche Monsieur X, c'était en fait son papa, donc le nom du pasteur, est-ce qu'il habite ici? Et Dana a répondu, oui, c'est mon père, il n'est pas à la maison, mais je pense qu'il va revenir très bientôt, vous pouvez entrer l'attendre si vous voulez. Alors, l'homme a accepté, mais le temps passait, et le pasteur ne rentrait toujours pas. Alors la fillette a proposé, c'est l'heure de manger, je peux préparer quelque chose pour vous et pour moi. Et 20 minutes plus tard, elle est revenue avec un repas. Puis elle a annoncé au policier qu'elle avait l'habitude de prier avant de manger. Ben lui, il lui a répondu qu'il ne le faisait pas. Hein. Alors elle a simplement dit, « Oh, ça ne fait rien, je veux aussi prier pour votre nourriture. Merci Seigneur d'avoir amené cet homme bon dans notre maison. Bénis notre partage au nom de Jésus. Amen. » Elle a été stupéfaite par le témoignage d'amour de l'enfant, ce policier-là. Et il s'est trouvé confronté à un dilemme lorsque le pasteur est enfin revenu parce qu'en effet, il était chargé de l'arrêter au motif qu'il avait dirigé des réunions d'églises non autorisées. Il a dit, mais votre Jésus, qui est-il? Est-ce que vous pouvez m'expliquer votre foi? Finalement, il a demandé ça. Le pasteur a répondu à ses questions, et peu après, le policier, qui était venu pour l'arrêter, s'est exclamé, mais je veux suivre Jésus moi aussi. Et lui qui était un ennemi de Christ, quelques instants auparavant, était devenu son disciple. Et ce miracle s'est produit il y a quelques années. Aujourd'hui, Dana a grandi, son papa est toujours pasteur, et le policier est resté fidèle à Jésus. Et mes amis, vous savez combien il est nécessaire que l'Évangile dans notre vie, ça ne reste pas une théorie, voyez-vous, même une très belle théorie, même une très belle connaissance, mais que ça se traduise par une grande réalité d'amour pour Dieu, pour notre prochain, pour ceux que Dieu a mis avec nous et autour de nous, pour qu'ainsi Dieu soit réellement glorifié et les cœurs véritablement touchés. Amen. Amen. Voilà. Et puis, il est encore un autre dont le nom ne sera pas inscrit là, à moins qu'un grand changement ne se produise. C'est le cas de celui qui dit « Je vais me repentir. Je vais chercher le Sauveur. Ah, je vais obéir. Ah, quand je me convertirai, je serai entier. Vous allez voir ce que vous allez voir. » Ah ben oui, voilà. Ah, jeune homme, jeune fille, tu l'as dit déjà 20 fois. Hein. Quand tu t'es trouvé dans telle ou telle difficulté, que tu n'avais plus d'autre solution que l'intervention de Dieu, quand tu t'es trouvé dans la souffrance, dans la maladie, quand ta conscience t'a travaillé parce que tu avais fait telle chose et que tu as honte d'y penser, quand tu as entendu ce témoignage frappant ou cette prédication qui touche ta conscience au point sensible, mais hélas, tu as été inconstant et instable, tu as été léger, négligent jusqu'à maintenant. Ta promesse, faite avec ta propre force, n'est qu'un roseau froissé. Ta repentance est comme la rosée du matin qui bientôt se dissipe. Tu es en train de paver ta route vers l'enfer avec tes propres bonnes intentions et en même temps tu te trompes toi-même avec elles. Hein, debout paresseux, debout inconscient, ramasse ces pavés, jette-les à la tête du diable, à la tête de cet adversaire qui aime à te voir faire cette œuvre insensée qui consiste à te fabriquer un chemin confortable vers ta propre perdition. C'est ça la réalité. Hein. Vous savez, Thèbes, en Grèce, 378 avant Jésus-Christ. Le gouverneur Archias donne un grand festin. Les mets, les vins, les musiques, les danses, les flatteries, tout est un régal pour les convives. Et au milieu du festin, il reçoit une lettre, une enveloppe cachetée, qu'il informe, il ne le sait pas, mais qu'il informe d'un complot, du complot de Pélopidas qui veut le renverser. Et Archias, en diffère la lecture, il la met sous son coussin en disant « À demain les affaires précieuses, les affaires sérieuses. À demain les affaires sérieuses. » Mais pour lui, il n'y aura pas de demain. Quelques heures plus tard, une douzaine de conjurés sous les ordres du traître se ruent sur lui et l'assassinent. À quoi a servi le message d'avertissement ? À rien. L'insouciance d'Archias lui a été fatale. Et vous savez combien de personnes qui se comportent comme Archias, remettant à demain le moment de s'occuper de leur âme, pensant que, comme le dénonce déjà le prophète Ésaïe au chapitre 56 au verset 12, « Demain sera comme aujourd'hui ». Ah ben oui, d'accord. Hein. On peut toujours se dire que la vie est belle. Hein. On peut toujours se dire qu'il convient d'en profiter et qu'on aura bien le temps demain, plus tard, de penser à son âme. Demain, c'est le mot des imprudents. Hein. Aujourd'hui, c'est le mot de Dieu qui dit à chacun « J'appelle aujourd'hui un témoin contre vous ». Les cieux et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. L'insouciance, la tendance à tout remettre au lendemain, ça ne fait pas partie du vocabulaire divin. Et ça, ça a égaré des quantités de gens. Hein, donc, Dieu dit à ceux qui sont encore loin de lui, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3 et au verset 7. Certainement, un des pièges préférés de Satan, c'est quand il réussit à convaincre les gens de remettre juste un peu plus tard. Oh, juste la prochaine fois. Ah, oh, ben voilà, hein. Combien on voit ça souvent, vous savez. Un prédicateur, il voit ça tellement souvent. Tellement souvent. Il voit des gens qui sont touchés par la prédication, qui vont se lever peut-être à l'appel, ou lever la main, je sais pas, mais qui ensuite remettent à plus tard les décisions pratiques qu'ils devraient prendre, qu'ils devraient mettre en œuvre. Vous avez entendu parler du gouverneur Félix dans le livre des Actes des Apôtres, hein. Et, si seulement, plutôt que d'approuver Paul, seulement il avait dit, Paul, je te déteste, et je hais ton enseignement. Je dirais qu'il y aurait eu plus d'espoir. Plus d'espoir que, par l'amour de Paul, par sa sagesse, eh bien, cette opinion soit changée, cette attitude soit changée. Mais que faire lorsque cet homme dit qu'il est presque persuadé de devenir chrétien, il l'avoue lui-même, mais au bout du compte, il dit à Paul, « Je t'entendrai à ce sujet une autre fois. » Eh bien voilà, hein, donc, en fait, il s'agit de quelqu'un qui connaît la vérité, mais qui ne la suit pas. Il évite les implications de cette vérité dans sa vie. Il s'agit de quelqu'un dont les résolutions sont comme de la fausse monnaie ou comme un chèque sans provision. Et certainement, sa condamnation est juste. S'il n'y a pas un changement rapide et profond dans sa vie, dans son cœur, il ne sera jamais inscrit dans le livre de vie, mes amis. C'est la réalité. Et ensuite, est-ce que j'ai besoin de préciser que ceux qui vivent et qui meurent dans le vice n'auront pas non plus leur nom inscrit dans ce livre-là ? Aucun ivrogne n'entrera en titubant dans les rues célestes pavées d'or, ni aucun drogué d'une sorte ou d'une autre. Aucun jurement, aucun blasphème ne choquera jamais les oreilles des anges. Hein ? Aucune chanson impure ne viendra souiller la perfection des cantiques célestes. Aucun spectateur de film douteux n'ira au ciel. Aucun avare, aucun convoiteur ne pourra comparer son or souillé par son péché avec l'or pur de cette gloire d'en haut, de cette gloire parfaite. Parce que les anges seront à l'entrée et ils prononceront ces paroles d'arrêt, il n'entrera ici rien de souillé, ni quiconque se livre à l'abomination et au mensonge. Voilà ce que dit l'Écriture. Et puis les moralistes aussi. Ah ben les gens, voilà, ils sont persuadés parce qu'ils sont, voilà, ils ont une certaine moralité, mais aucun des moralistes ne saura avoir son nom inscrit dans le registre du recensement divin. Hein. Peut-être qu'aucune accusation ne peut être lancée humainement contre leur caractère, mais si le moraliste n'a pas reçu un nouveau cœur, bien il sera perdu aussi bien que l'immoral. L'honnête commerçant qui n'a été honnête qui n'a été malhonnête, pardon, qu'avec Dieu, bien, il trouvera que cette malhonnêteté le condamnera. L'homme droit qui aura été droit dans toute sa vie sur cette terre, mais qui n'a pas suivi le chemin tortueux, excepté avec Christ, découvrira que ce chemin tortueux sera le moyen de sa destruction. L'homme qui aimait son voisin, mais qui oubliait Dieu, eh bien, il découvrira lui aussi que les méchants seront jetés en perdition avec tous ceux qui oublient Dieu. Parce qu'il faut qu'on ait foi en Christ. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre moyen. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en vous. Et en conséquence, eh bien, c'est vrai, que vous repentissiez, que vous convertissiez, et qu'ainsi vos noms soient écrits dans le livre de vie. Amen. Amen. Alors, quels seront les noms qui seront inscrits dans ce recensement ? Je ne sais pas si vous vous souvenez du dernier recensement qui s'est produit dans ce pays de France. Hein, peut-être certains d'entre nous ont reçu les papiers, des papiers à remplir à ce sujet-là. Voilà, alors supposez que, je ne sais pas moi, la nuit précédant ce jour de recensement, il y a eu un voleur dans votre maison. Est-ce que vous allez inscrire son nom sur la liste de recensement ? Je pense bien sûr que non. Hein. Ou même la personne qui est venue frapper à votre porte, qui est restée une ou deux heures chez vous, c'est pareil, vous n'allez pas l'inscrire. Vous allez mettre sur ce document le nom des habitants de la maison et aucun autre nom. Et vous pouvez remarquer que quand ces papiers ont été envoyés, ils ont été envoyés chez les pauvres, chez les riches, dans les quartiers populaires, dans les quartiers résidentiels. Et le Parlement n'a pas voté une loi pour que ne soient recensés que les riches, par exemple, ou que ceux qui dépassaient un certain seuil d'impôt, mais tous étaient invités à se faire recenser sans aucune différence. Et ainsi, il n'y a aucune exception pour tous ceux qui ont cru en Christ de tout leur cœur. Grands ou petits, riches ou pauvres, simples ou sages, tous sont invités et inscrits à condition, bien sûr, qu'ils se confient en lui. Alors que chacun d'entre nous pense à son âme, mon âme, seras-tu dans la gloire ? Seras-tu inscrite dans ce livre ? Pour cela, pose-toi lentement et profondément les questions suivantes. Que penses-tu de Christ ? Est-il ton sauveur et ton Seigneur ? Est-il ton unique secours, ta seule espérance ? Trouves-tu la purification par son sang, la guérison dans ses blessures, la vie dans sa mort, le ciel dans sa présence? Ton cœur, ta vie, ont-ils été changés profondément par sa puissance? Si oui, eh bien ton nom sera trouvé quand le Seigneur comptera en inscrivant les peuples et il sera dit de toi aussi que tu y es né. Amen, amen, alléluia. Alors maintenant, notre quatrième chapitre, quel sera celui qui remplira ce registre de recensement ? Il est écrit là, l'Éternel compte en inscrivant les peuples. Mais pourquoi est-ce que c'est lui qui fait ce recensement ? Eh bien, la première raison, c'est qui d'autre devrait le faire ? Qui d'autre pourrait vraiment le faire ? Supposer que ce soit nos ennemis qui aient à tenir sur ce livre-là. Alors, eh bien, j'imagine que nous ne voudrions pas cela, que nous ne puissions pas être livrés aux mains de l'ennemi qui ferait se lever contre nous de faux témoins. Certainement, personne d'entre nous, ne voudrait que son avenir éternel soit décidé par un monde mauvais, calomniateur et médisant. Donc, imaginez que la plume soit entre les mains des religieux. Ah ben là encore, combien souvent ils refuseraient d'inscrire le nom de ceux qui ne sont pas dans le même courant qu'eux. Concernant les bigots, vous savez, la pratique de la bigoterie, ben, si c'était ça qui décidait, la bigoterie refuserait d'inscrire tous ceux qui n'ont pas obéi à chaque point de leur système religieux qu'ils ont mis en place. Mais supposez, à l'inverse, que ce soit nos amis qui aient cette tâche-là. Ah ben, il ne se passerait malgré tout pas longtemps avant qu'ils ne commettent aussi quelque injustice et qu'ils ne mettent en jeu la pureté du ciel. Pourquoi ? Parce qu'ils voudraient inscrire quelqu'un qui leur est proche, quelqu'un qu'ils aiment bien, qui leur est cher, mais qui ne veut pas se convertir, qui ne veut pas réellement venir à Dieu. Eh oui, c'est vrai, trop souvent dans ce monde, le sentiment dépasse le sens de la justice, le sens de la compréhension. Mais en fait, il est indispensable que ce soit une véritable conversion qui est le seul moyen pour que notre nom soit inscrit et que nous puissions aller dans ce ciel de gloire. Amen. Alors il faut que ce soit Dieu parce qu'il est le seul sage qui puisse l'effectuer. Dieu trouve de la folie, même chez ses anges, est-il indiqué. N'est-il pas écrit que Dieu a convaincu de folie la sagesse du monde ? Le Fils de Dieu... La folie de Dieu est plus sage que la plus grande sagesse des hommes. Et c'est ainsi que l'Écriture nous dit non seulement que Dieu est sage, mais qu'il est le seul sage. Vous savez, même les païens savaient cela. Il y a une ancienne légende grecque de l'Antiquité qui rapporte qu'un jour, des pêcheurs ont ramené un trésor dans leur filet. Voilà. Et n'arrivant pas à se mettre d'accord pour le partager, ils s'en sont remis à l'oracle de Delphes, la ville de temple de Delphes, donc, qui a décrété que ce soit le plus sage qui puisse le posséder. Alors ils l'ont envoyé à Thalès de Milet, et puis après ils l'ont envoyé à Solon, et lui ont fait faire le tour de tous les hommes sages qu'il y avait en Grèce à ce moment-là, mais tous ont refusé. Tous ont confessé que non, ils n'étaient pas les plus sages. Jusqu'à ce que finalement l'un d'entre eux leur recommande de l'apporter à l'autel des dieux, car certainement parmi les dieux devait se trouver le plus sage. Ah oui, hein. Ce que les Grecs décrivent ainsi dans une fiction poétique, eh bien nous savons que c'est vrai, c'est pourquoi nous ne pouvons laisser cette redoutable fonction qu'entre les mains du Seigneur, Créateur, dans son immense sagesse. Amen. Et puis enfin, nous en arrivons à notre dernier point. Pourquoi Dieu a-t-il fait un semblable recensement ? Nous avons déjà parlé de la nécessité absolue que la différence soit faite entre ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Mais le Seigneur compte les siens pour montrer le grand prix qu'il leur attache, montrer la valeur qu'il leur attache. Vous savez, il est impossible de concevoir pour l'homme combien le moindre des croyants est cher au cœur de Dieu. Quel immense amour il a pour lui. Alléluia. Il lui est infiniment plus précieux que le diamant du plus grand prix. Il lui est plus cher que le fils unique pour la pauvre veuve. Il lui est plus cher que le fiancé pour celle qui est nouvellement fiancée. Il lui est plus précieux que la vie pour celui qui est en grand péril. Il lui est plus précieux que l'honneur pour ceux qui seraient prêts à sacrifier leur vie plutôt que leur intégrité. Ah, nous aimons, mais nous n'aimons pas comme Dieu aime. Hein. Donc, pour nous, l'amour, ça peut être, oui, un genre de passion qui demeure peut-être. Mais pour Dieu, il s'agit d'un principe. Il s'agit d'un principe qui pénètre toute chose. De nous, il peut être dit que nous aimons, mais de Dieu, il est dit qu'il est amour. Alléluia. La grande différence. Et c'est pour ça qu'il est écrit que le Seigneur recense ses joyaux, qu'il fait le compte de ses brebis, qu'il se souvient des chers enfants de sa famille, de chacun d'eux, et qu'il nous manifeste ainsi son amour, et qu'il veut nous le manifester pour l'éternité. Alléluia. Amen. Et puis, remarquons encore que ce dernier recensement est là aussi pour montrer à Satan la réalité, l'étendue de sa défaite. Ça aussi, c'est une raison. Hein. Parce que cet ennemi des ténèbres, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je vaincrai, je partagerai le butin, ils seront à ma merci. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il peut nous dire, cet ennemi ? Tu n'as pas réussi à arracher ces brebis, tu n'as pas réussi à les déchirer. Hein, donc, ces légions infernales qui, remplies de malice, de méchanceté, pensaient les arracher au bras de Christ, n'ont pas pu atteindre leur but. Rappelez-vous, ils prétendaient vaincre Christ. Ils l'ont cloué au bois. Ils l'ont cloué au bois maudit de la croix. Ils ont pris sa vie. Mais est-ce qu'ils ont pu garder sa vie ? Est-ce qu'ils ont pu briser un seul de ses os ? Est-ce qu'ils ont pu voler un seul de ses membres ? Et pendant combien de siècles ils ont lutté contre les croyants, ils ont lutté contre les fidèles ? Est-ce qu'ils ont pu vaincre un seul de ceux qui se confiaient au Seigneur, de ceux qui se confiaient en lui ? Et comme ils ont été vaincus, comme le diable a été vaincu lorsqu'il a lutté contre Job sur la pente glissante de son tas d'ordures, de son tas de fumier où il se trouvait. Hein ? Donc, et que d'exemples on pourrait citer où cet adversaire a été vaincu. Et ce recensement, c'est l'évidence, insupportable pour lui, mais l'évidence de sa défaite. Il est vaincu, il est abattu, il est précipité du haut du ciel, et aussi du haut de ses illusions et du haut de son orgueil. Et ce jour-là, c'est véritablement l'Éternel seul qui sera exalté, alléluia, l'Éternel seul qui sera glorifié. Alors la grande question se pose, la grande question pour chacun, est-ce que ton nom sera écrit à ce moment-là ? Est-ce que ton nom est déjà écrit en ce jour ? C'est la grande question. Est-ce que tu seras toi-même dans cette gloire et dans cette victoire ? Est-ce que tu as véritablement cru ? Est-ce que tu as cru de tout ton cœur ? Est-ce que l'œuvre de la foi et de la nouvelle naissance s'est vraiment réalisée en toi, avec la transformation qui l'accompagne ? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà ce que dit l'Écriture. Et il te faut entrer dans la foi et entrer dans cette vie d'obéissance de la foi. Amen. Et qu'ainsi cette pleine et juste assurance du salut vienne dans ton âme pour y demeurer pour toujours. Béni soit Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons. pour ces instants, pour ta parole solennelle qui nous remet encore devant la chose la plus importante de notre vie, la chose devant laquelle toutes les autres choses importantes ne sont rien. Cette chose, c'est cette décision, ce choix, cet engagement. Et merci Seigneur, parce que ta volonté, c'est que nos noms puissent être inscrits dans ce grand registre, le registre de ceux qui sont nés de nouveau, Jésus. Alléluia, de ceux qui t'ont reçu comme leur sauveur, de ceux qui t'ont reçu comme leur Seigneur, de ceux qui t'ont reçu pour que par ton esprit, cette œuvre de transformation s'accomplisse en eux. Cette œuvre de passage de la mort à la vie, cette œuvre de passage des ténèbres à la lumière. Merci notre Sauveur et notre Dieu. Merci parce que ton désir est encore là aujourd'hui, Seigneur, de soutenir et d'accompagner cette parole dans les cœurs pour que véritablement l'œuvre du salut s'accomplisse. Alléluia, alléluia. Et si parmi nous il y en a qui ont ce désir que cette œuvre puissante de Dieu se fasse, bien qu'ils se lèvent, qu'elle se lève à leur place maintenant, aujourd'hui, mais qu'ils le fassent avec sincérité, qu'ils le fassent de tout leur cœur. Alléluia. Qu'ils le fassent véritablement en réfléchissant et en considérant combien il s'agit de quelque chose de précieux, d'important, de nécessaire et de salutaire. Alléluia. Seigneur mon Dieu, je te bénis et je te remercie pour ces bien-aimés, Seigneur, qui sont là, qui ont ce désir, qui manifestent, Seigneur, cette position qu'ils prennent. Et je te remercie pour l'œuvre d'amour et de bonté et de puissance que tu opères encore dans leur vie par ton esprit, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je me réjouis, Seigneur, parce que tu es toujours le même, Seigneur, parce que tes grâces excellentes et les dons parfaits descendent encore du haut du ciel, toi dans lequel il n'y a aucun changement, aucun nombre de variations, et que maintenant tu visites ces bien-aimés. Oui, tu les visites puissamment par ton esprit, maintenant et dans les jours qui viennent, de manière à ce que cette œuvre de transformation glorieuse se fasse et se suive, et de manière à ce qu'ils puissent réaliser ta joie parfaite, Seigneur, qu'ils puissent recevoir dans leur cœur la précieuse assurance du salut, Seigneur. Alléluia. Qu'ils puissent jouir de la communion avec toi, Seigneur. Qu'ils puissent recevoir ta paix profonde, Seigneur, que le monde ne connaît pas, mais que tu accordes à ceux qui se confient en toi, Jésus. Alléluia. Qu'ils puissent voir les exaucements à leurs prières, Seigneur. Alléluia. Qu'ils puissent être soutenus et secourus par toi. Qu'ils puissent être guidés, Seigneur, conduits dans le bon chemin, dans la bonne voie. Merci, notre Sauveur. Alléluia. Dans ton amour et ta fidélité, tu accomplis encore ton œuvre et tu agis puissamment en leur faveur au-delà de tout ce que je peux dire et prononcer. Merci Seigneur de grâce, nous te louons et te glorifions, nous te bénissons. Amen Jésus, amen, alléluia. Amen Jésus, amen Seigneur, béni soit Dieu. Plusieurs annonces. Nous avons cet après-midi une réunion de préparation au baptême qui se déroule à 16h. Donc c'est pour les candidats au baptême et pour ceux qui ont des questions à ce sujet. Les baptêmes eux-mêmes sont programmés pour le mercredi 13 avril, au soir à 20h15. En attendant, la prochaine réunion de prière, c'est mercredi à 20h15, ainsi que l'école du mercredi pour les enfants à 14h, les enfants d'âge collège. Donc, les questions-réponses bibliques, c'est vendredi à 19h15, la réunion d'évangélisation vendredi à 20h15, Il n'y aura pas d'évangélisation dans les villages ce samedi prochain qui vient, puisque nous accueillons ici l'Assemblée Générale de l'UDEM dans nos locaux. Donc, bon, ça concerne juste quelques représentants de chaque assemblée. Nous prévoyons 2 jours d'activité pour les jeunes. Ça concerne essentiellement ceux d'âge lycée ou étudiant. Donc ça, c'est le lundi 18 avril et le mardi 19 avril. Les renseignements et les inscriptions auprès de Jean-Baptiste et de moi-même. Amen. Béni soit Dieu. Que le Seigneur vous accompagne et vous fortifie en lui.